Bonjour, vous êtes bien sur Radio Campus Kikinkou, le magazine de la moto, tous les dimanches de 11h à midi et demi maintenant. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur le 106.6, mais aussi par internet, en direct via le site de Radio Campus Lille et en podcast sur le site de Kikinkou, kinc.free.fr. Ensuite, on a aussi besoin d'aventures, nous, à Kikinkou, hein. Déjà, depuis le début de cette rentrée radiophonique, on a eu quelques aventuriers. Allons dans les pays du Nord, en Islande, avec Stéphane et Valérie. Bonjour.
Bonjour.
Et vous avez donc fait un petit périple, je crois qu'il y a 1200 km pour y aller, à peu près,
c'est ça, voilà. Sur un mois, on a fait 6500 km, à peu près.
Ça va, c'est sympa. Hein, en couple, sur la moto, un 650 Transalp.
Ouais.
Mais vous n'étiez pas à votre coup d'essai puisque vous avez déjà fait les USA, la Norvège, je crois.
Oui, Norvège, Suède. Et cette année, on s'est attaqué à l'Islande. Et premier entraînement avec le froid avec la Norvège. Et là, l'Islande, ça s'est très bien passé.
Donc vous me parlez de ça, ce pays magnifique, au décor splendide. D'ailleurs, vous avez un blog très bien fait, c'est Tout dit en vadrouille.
Hein.
Je vous invite à y aller, il y a des très très belles photos et peut-être des vidéos prochainement.
Prochainement, oui.
Prochainement, formidable.
Just to love you, baby. I wonder why. Now I don't get it.
Et toujours une programmation musicale de qualité qui te met la pêche le dimanche matin à 11h. Pour avoir notre dose d'aventure dans cette émission de Kick un coup, nous accueillons donc Stéphane et Valérie. Bonjour Stéphane et re-bonjour. Stéphane et Valérie qui ont l'habitude de voyager en couple.
Oui. Hein,
et vous n'êtes pas donc à votre coup d'essai puisque vous êtes déjà allé en Corse, je crois, en 2005, en 2006, en Croatie en 2009, aux USA en 2011, en Scandinavie en 2012.
Oui.
En 2013, vous avez décidé de redécouvrir,
oui.
Voilà, c'est ça, la France. Et vous avez eu beaucoup trop chaud. Et c'est pour ça que vous avez voulu aller en Islande.
On a eu beaucoup trop froid.
Ça vous apprendra.
Pas froid, mais humide.
Bon, vous avez quand même choisi la bonne période, hein, fin juin à fin juillet. Parce que, bon, en hiver, j'imagine que ça doit être un petit peu difficile.
Bah, en fait, les deux mois d'été sont les seuls mois qui sont praticables là-bas, notamment pour les routes secondaires. Puisque même au mois de mai ou à partir de la fin août, on peut déjà avoir de la neige.
Ouais, quand même. Mm-hmm. Donc, tu as eu une révélation en février 2003 en allant au Touquet avec un,
c'est ça,
avec
oui.
un pote à toi.
En fait,
en
la découverte complète de la moto, puisque c'était.
Tu connaissais pas
Non, du tout. J'ai passé le permis moto, je crois, la semaine suivante. En fait, on a fait l'enduro pour toujours rester dans la thématique. Et il faisait froid, il pleuvait. Et bizarrement, j'ai adoré ça.
Ah ouais.
Et je crois que la semaine suivante, je m'inscrivais au permis moto.
T'es un vrai motard, toi. Hein, t'es un fêlé aussi.
Là, oui.
T'as
j'ai
bien
commencé sur le tard, vers 26-27 ans. Mais depuis, j'ai pas arrêté.
La révélation.
Non, mais c'est ça.
Donc, t'as commencé par une ER5.
Oui, une petite moto.
Voilà,
petite
histoire
moto
de prendre
pour
un
faire
peu,
la main.
Voilà, pour faire la main.
Une
et après, t'es passé sur un.
Que voilà. J'ai toujours, qui approche les 100 000 km maintenant. Et depuis peu, une Transalp. Qu'on a acheté pour spécifiquement pour aller
l'Islande.
En Islande.
En récupérant, j'ai vu la bagagerie du GSXF.
Oui.
Et c'est vrai qu'elle était bien chargée déjà.
Elle était bien chargée, oui.
Pourquoi aussi un Transalt pour l'Islande? Parce que ben, il n'y a pas que du bitume.
Et non, en fait, la plupart des routes, en fait, il y a une route, la route principale, qui est bitumée, et encore pas partout. Et sur les routes secondaires, en fait, on a toutes sortes de conditions, donc il n'y a plus d'asphalte. Ça s'arrête comme ça d'un coup, c'est gravier, terre battue, tôle ondulée.
Et tu t'étais un peu entraîné avant à rouler sur du chemin?
Un petit peu en fait, en ayant eu la Transalp, bah, j'ai fait des tours dans la campagne autour de chez moi, sur les chemins de tracteur, pour essayer de voir un peu comment ça marchait.
J'ai vu, donc tu as un blog hein, vachement bien fait qui s'appelle Tout dit en vadrouille.
C'est hein. ça.
J'ai pris un moteur de recherche, j'ai mis comme ça, phonétiquement Tout dit en vadrouille, on tombe dessus sans problème. En plus, c'est facile à retenir, ça
oui.
tombe bien. Et j'ai vu que tu avais quand même préparé ton voyage avec les outils qui vont bien.
Oui, avoir le minimum, la préparation de la moto importante en fait. Partir avec une moto révisée, évidemment. L'avantage de rouler en Honda Transalp, comme on dit, c'est qu'on voyage assez léger puisqu'on n'a pas besoin de pièces de rechange. Ça, c'était important d'avoir une moto fiable. Sinon, préparation basique, en fait, pneus, freins, toutes les vidanges faites, et puis voilà.
Je sais que donc on arrivera après l'Islande, mais pendant un moment, vous êtes à un endroit, alors je peux pas dire le nom parce que je pratique pas trop IKEA et ce type de. J'ai un peu de mal avec ce nom comme ça, mais vous êtes à un endroit où la première ville est à 100 km à l'ouest, je crois.
C'est ça, oui.
Et la dernière maison que vous avez croisée à 60 km
voilà.
À l'est.
C'était assez Seydisfjörður. C'est pas facile à dire et encore moins à écrire. Quoique au Scrabble, je pense qu'il y a moyen de péter les scores. Mais oui, effectivement, c'est certains secteurs du pays, notamment l'Est, le Sud-Est, le Nord-Ouest, sont très très peu peuplés en fait.
Et oui, mais donc je pensais à ça au niveau de la préparation. T'as pas intérêt à tomber en panne ou à avoir une crevaison. Comment tu fais là au milieu de rien comme
ça? C'est une bonne question en fait.
Comment tu fais?
On a découvert ça là-bas qu'en fait il n'y avait pas, ou du moins on n'en a pas vu, de garage moto en fait.
Et donc, t'avais pris une assistance
C'est l'assistance classique de l'assurance, mais bon.
Ouais, pour te trouver au milieu de rien, ça va pas être facile non plus. Quoi.
Au milieu de rien, mais il y a toujours
c'était
du passage, en
la
fait.
Compagne, non, la compagne qui s'occupait de la mécanique.
Ah non, alors là, je suis une bille en mécanique.
Et donc, toi, en tant que passagère, le passer du GSXF au Transalp, une nouvelle expérience?
Ah, une nouvelle expérience, et je dirais que même la Transalp est beaucoup plus confortable pour moi, parce que là, je suis beaucoup plus calée, beaucoup plus proche du conducteur, je suis calée entre le conducteur et le top case à l'arrière. Donc pour moi, je suis plus comme dans un fauteuil, en fait. Et l'assise est vraiment très très confortable.
Vous faites plus qu'un, comme ça?
Exactement.
Ça, vous avez choisi ensemble la destination
l'Islande? Oui, toujours, oui.
Oui. Oui, oui, oui.
Et vous préparez, j'imagine, le voyage ensemble?
On regarde des blogs, chacun de notre côté, et après on rassemble ensemble ce qui nous donne envie, ce qu'on a envie de faire. Et chacun donne vraiment ce qu'il a envie de faire, et on fait chacun notre expérience ensemble.
Ok, vous restez avec nous, on continuera sur cette expérience en couple. On va revenir en Islande, la terre des extrêmes et de contrastes, avec des paysages sauvages qui, selon le temps et l'éclairage, évoque le début ou la fin du monde. C'est beau, hein, tout un programme, hein, ça donne envie. Donc après la Hollande, l'Allemagne, le Danemark, vous prenez le bateau, 2 jours de bateau, je crois.
C'est ça, et en fait, et vous arrivez. Il ne faut pas le louper, puisqu'il y a un seul bateau par semaine.
Par semaine.
Donc si on veut y aller avec son véhicule, on n'a pas le choix, c'est le mardi matin à Hirtshals au Danemark.
C'est ça que tu avais du mal à dormir la nuit, là, tu avais peur de louper
le
bateau.
Il y a toujours l'appréhension de louper le réveil, et puis que le bateau part sans nous, et puis on est obligé d'attendre une semaine.
Voilà, un peu long la traversée, 2 jours, je crois.
Surtout au retour. Enfin, l'aller, ça va, puisqu'on est excité par le départ, la découverte. Mais au retour, avec en plus le fait de devoir rebosser la semaine suivante, c'est un peu plus compliqué.
Et donc, vous débarquez en Islande. Les conditions climatiques sont
dantesques. On est arrivé. Déjà, on s'est pris une tempête dans l'Atlantique Nord. Ensuite, on est arrivé là-bas, il pleuvait. Et il faisait 5 degrés avec de la neige sur les bas-côtés encore. Et donc là, on s'est dit, mon Dieu, où est-ce qu'on débarque ? Mais heureusement, en fait, la température du moins s'améliorait peu après. On a eu entre 10 et 15 degrés au mois de juillet, mais il fait rarement plus là-bas.
Ah, y a un proverbe qui dit, en Islande, s'il ne pleut pas, c'est qu'il va pleuvoir, c'est ça ?
Oui, c'est un peu ça. Ou si la météo ne te plaît pas, attends 15 minutes.
Et pour quand tu pilotes, bon, ben voilà, c'est toi qui conduis, t'es dedans et tout. Mais quand t'es passagère avec des conditions climatiques comme ça, des fois tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là, non ?
Oui, c'est vrai. Bon, quand on est arrivé, c'est vraiment la découverte, on regarde un peu partout. C'est vrai que quand il fait moche, là on a plus envie de se mettre dans une coquille, de se cacher. C'est vrai qu'on a eu une journée où il a plu beaucoup avec du vent de côté. Donc c'est vrai que bon, en même temps on se dit bon, c'est pas grave. Demain, il fera meilleur, quoi. Enfin, mais c'est vrai que du coup, l'Islande, c'est un très bon exercice au niveau conditions climatiques. C'est vrai qu'après, quand on revient en France et qu'il pleut,
les deux dans les.
Exactement.
Ouais, vous disiez qu'il y avait tellement de vent, un vent latéral tellement important que c'est comme si tu roulais, comme si tu prenais une courbe, en fait.
Exactement. Oui, on a fini une fois à 30 km/h parce qu'on pouvait pas aller raisonnablement plus vite.
Et il y avait il pleuvait. Enfin, c'était vraiment.
Oui. Et là, on est content de rentrer dans la guest house au chaud pour pouvoir boire, se réchauffer, prendre une bonne douche et aller se coucher. Parce que c'est vrai que c'est aussi fatigant le temps. Et c'est vrai que les paysages, c'est extraordinaire. C'est vraiment un pays magnifique et ça prend au trip parce que c'est vraiment spectaculaire, on ne trouve pas ça ailleurs.
Ouais, avec des grands espaces où il y a très peu de monde finalement, oui. Donc cette sensation de liberté. À chaque virage, on se dit voilà, on a vu le plus beau, on verra pas le plus beau, et puis à chaque fois on voit quelque chose d'encore plus beau. Je l'ai lu sur votre blog, c'est pas moi qui l'ai inventé.
Disons que c'est vrai qu'à chaque virage, le paysage change. Et c'est vrai qu'on dit ah, c'est beau, et puis au virage suivant, le fait d'être dans une autre configuration, on n'a pas encore tout vu, quoi.
Et ça t'a pas donné envie de piloter une machine aussi ?
Il y a des moments, pas tellement, parce que quand on se retrouve avec un goudron tout neuf et un caillou, la route refaite, mais plein de cailloux, là, oui, non, j'ai pas très envie, non. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, on était un peu frustrés, parce qu'il y avait des routes qu'on voulait emprunter, où on ne pouvait pas, parce que c'était vraiment des routes à 4x4 et vraiment accidentées. Ouais. Oui. Ça, on se dit vraiment, quand il se passe quelque chose en Islande, il faut vraiment écouter ce qui se passe, parce que ça ne pardonne pas. On était à un endroit où, effectivement, quand on voit des consignes de sécurité par rapport à une éventuelle éruption, on se dit, bon, ok, là, vraiment, quand il se passe quelque chose...
Vaut mieux pas que ça arrive, quoi.
Voilà.
Il y a des photos de coulées de lave aussi, j'ai vu.
Oui, on a traversé des champs entiers de lave à perte de vue.
Par contre, pour les pneus, ça doit pas être...
Le pneu
a souffert un peu.
Beaucoup.
T'en avais un de rechange, non ?
Non.
Et il n'y a pas de garagiste sur l'île.
On n'en a pas vu. A priori, il y aurait un garage Honda sur Reykjavik, la capitale. Mais
T'avais pris des rustines avec toi ou...
J'avais.
L'aventure complète.
Oui.
Vous restez avec nous. Ensuite, on ira voir les baleines, les icebergs.
Et les sources d'eau chaude.
Et des sources d'eau chaude. Et puis la croisière s'amuse aussi, je crois.
Oui.
À tout à l'heure.
so strange. I'd like to tell you everything I see. She's the passionate one.
Oh, yeah, it was like lightning. Everybody was frightening. And the music was soothing. And they all started grooving.
Yeah, 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 yeah.
And the man at the back said, everyone attack. And they turned into a ballroom blitz. And the girl in the corner said, boy, I want a money. It'll turn into a ballroom blitz. Ballroom blitz. Ballroom blitz.
Alors tout à l'heure on a dit que bon c'était une aventure, que c'était quand même pas si facile, hein, que les conditions climatiques pouvaient être compliquées, mais il y a aussi de beaux paysages et aussi je crois des rivières, des sources chaudes.
Oui. Oui, alors ça c'est le côté très sympa. Donc on roule toute la journée et en fin de journée on se prévoit une petite source d'eau chaude. Donc soit on va au Blue Lagoon, qui est assez touristique. Soit on prend la moto et on trouve un petit coin de nature.
Donc tu roules comme ça et tu cherches une source.
Oui,
dès que t'en as une, hop, tu t'arrêtes.
Il faut connaître, on nous les indique.
Oui,
en fait.
Ah oui, il faut connaître quand même. Et c'est vrai que c'est pas forcément super bien indiqué, mais ça se trouve. Et donc à ce moment-là, c'est le pur plaisir. Hop, on se déshabille, source d'eau chaude, 38 degrés.
Après l'effort, le réconfort.
Et à l'extérieur, il fait combien?
Bon, il doit faire 10, 15.
10 et l'eau coule de la rivière à 38 degrés.
Ça va, c'est pas trop. T'as pas l'impression de. Le choc thermique est pas trop.
Non, ça fait du bien quand on rentre.
Et le maillot de bain est obligatoire, non?
Oui. Alors, il y a une particularité en Islande, dans les piscines, il faut se doucher nu. C'est obligatoire.
Et tu mets ton maillot de bain après?
Oui. Ouais, sans faire regardant sur l'hygiène, donc ça choque beaucoup de touristes.
Tu mets le maillot de bain en sortant, en fait.
Ouais, c'est
voilà,
ça.
Voilà, ouais, c'est ça.
Ça crée des liens, non?
Exactement.
Ouais.
Les Pyrénées du Nord, quand même. Donc, il y a aussi des choses à voir. Vous avez vu des baleines, je crois, des phoques?
Oui. Alors, les baleines, donc là, c'est un peu particulier parce qu'on ne les voit pas forcément du rivage. Il faut forcément prendre un bateau.
Et vous avez fait une petite croisière, alors?
J'appellerais pas ça une croisière, puisqu'on est tombé à un moment où, effectivement, il faisait pas super, super beau. Donc, on avait un peu de houle, je dirais même beaucoup.
Des creux de 3-4 mètres.
Donc, moi, j'étais un petit peu malade.
Ah bon?
Oui.
Comme beaucoup de gens sur le bateau.
J'avais une copine, je me suis trouvée une copine de mal de mer.
Vous avez essayé des tuyaux.
Voilà, chacune notre tour, on se retournait pour nourrir les baleines.
Voilà.
Non, enfin, c'est les baleines, donc il y a quand même une bonne heure de bateau pour pouvoir les voir. Et là, c'est vraiment... Bon, c'est magique. C'est magique parce que, bon, c'est vrai qu'on ne voit pas ça tous les jours.
Non, chez nous, des baleines, voilà. Enfin, c'est pas les mêmes, quoi.
Oui.
Les phoques aussi, qu'on peut voir du bord de la route, pas.
Là, oui, c'est un autre endroit d'Islande, dans le sud, où on est allé voir les icebergs. Et on a vu...
T'as vu des icebergs?
Oui, on a vu des icebergs.
Il y en a encore?
Il y en a encore. Je ne sais pas encore pour combien de temps, mais là, il y en a encore, oui.
Donc, c'est une réalité, la fonte... Vous l'avez vue.
Oui.
Il y a des panneaux avec les glaciers, et selon les années, jusque là où ils avançaient.
Ouais. Oui, oui, là, on voit effectivement, comme tu le disais, il y a des panneaux qui expliquent que chaque année, la glace recule et ça fond.
En 1990, elle était à un endroit, et là, elle est 150 ou 200 mètres plus loin.
Ah oui, quand même, c'est impressionnant.
Oui.
Et ils montrent un peu là, les conséquences sur la Terre d'Islande.
Comme tous les pays nordiques, en fait, c'est un peuple très écologiste. Donc, oui, ils sont assez sensibilisés là-dessus.
J'ai oublié ce que je voulais dire. <C'est> pas...
Donc, les icebergs, on a vu les phoques nature. Ouais, c'est ouais, ça, ouais.
Ah, ouais. Et donc, je disais une petite anecdote. Vous avez eu un souci pendant un moment, un souci électrique
Un petit souci mécanique, oui.
Parce que pour que ça soit une aventure, il faut bien qu'il y ait.
Oui, bien sûr.
Ouais. C'est ce qui se passe.
Ouais, sinon, c'était pas très grave, c'était juste un fusible.
Nous, on est un spécialiste avoir des soucis.
Donc, en fait, c'est le klaxon qui était défectueux, qui faisait claquer le fusible de 15 ampères, ouais. Mais qui avait comme particularité de commander les phares, les clignots, les feux stop et toute l'instrumentation. Donc j'avais plus de contour, plus de jauge à essence, plus de jauge à température. Bon, ça, à la limite, c'est pas très très grave, on peut rouler, mais plus de clignots et plus de feux stop, ça m'embête.
Et t'étais où là à ce moment-là?
Au milieu de nulle part, à peu près à 50 km de la première maison. J'étais pas un spécialiste en électricité, mais mécanique générale ça va, mais heureusement il y a notre ami Hervé qui m'avait donné quelques cours, qui doit nous écouter là et que je salue, qui avait donné quelques cours accélérés en électricité et j'ai pu vite diagnostiquer le truc. J'avais pris la notice technique de la moto sur clé USB pour aller avec l'ordinateur.
Wow.
J'ai regardé vite fait et c'était réparé en 2 minutes.
Oh, formidable, hein. On peut aller au bout du monde avec...
Ouais, parce qu'on devait prendre le bateau le surlendemain, je crois, et donc j'étais pas fier sur le coup en disant mon Dieu, je vais rester là. Et là, pareil, le bateau était le jeudi matin.
Après,
et... oui, c'était ça.
Effectivement. Ouais. Si on devait donner un conseil aux auditeurs qui nous écoutent, sinon, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire à nos auditeurs s'ils avaient envie de vivre cette aventure?
Partir avec une moto préparée, qui puisse faire un peu de hors-piste sans être du tout-terrain extrême non plus.
Préparer, ça veut dire quoi?
Réviser.
Ouais, d'accord.
Partir avec des pneus neufs, des freins neufs. Parce que là, je suis revenu. Enfin, je suis parti avec pneus neufs, freins neufs, et je suis revenu avec tout à changer, en fait.
Et les pneus, c'était des pneus mixtes.
J'avais pris des pneus mixtes, ouais.
Parce que et une compagne qui aime l'aventure,
surtout les
qui aime le froid.
Oui, et prévoir des fringues étanches, surtout.
Oui.
Qui aime le froid, mais aussi des sources d'eau chaude.
Oui.
Bien compris.
Surtout bien prévoir vêtements chauds.
Ouais. Non, sinon ça reste accessible en fait. On peut faire le tour par la route principale, ce qu'ils appellent la route circulaire ou route numéro 1. Ça, c'est faisable avec une routière sans aucun problème. On a vu des Goldwing ou des Harley.
Ouais.
Par contre, après, il y a l'inverse, aller dans ce qu'ils appellent les hautes terres, ce qui est au milieu, mais là, il n'y a absolument rien. Et là, on a vu des gars avec des gros trails, la pneu à crampons, les jerrycans d'essence d'appoint, parce qu'évidemment, il n'y a pas de station service.
Ouais, l'essence, ouais, ça doit être compliqué.
Ouais, le mieux qu'on ait vu, en fait, à chaque sortie de ville, il y a un panneau qui indique les prochaines stations service.
D'accord.
Le mieux qu'on ait vu, c'est 265 km.
Ouais, ça va. Sympa. T'avais combien d'autonomie, toi?
300. 300 roulant doucement. Mais nous, on est restés dans aux endroits un peu près civilisés quand même, donc on n'a jamais eu de frayeur là-dessus.
it's time for me to take my stand. Now it's time for you to take my hand.
Bonjour Marc.
Bonjour Luc. Enchanté, ravi d'être présent parmi vous.
Alors, on se connaît parce qu'on s'est déjà croisé il y a quelques années, lors d'un DGR d'ailleurs.
Tout à fait.
Et c'était à l'époque, c'était à Ronchin, quand la concession était encore sur Ronchin. Et je me souviens que je t'avais emmené pour participer à la balade.
Tout à fait, parce qu'à ce moment-là, je ne pouvais plus faire de moto par moi-même.
Donc, tu ne pouvais plus faire de moto ?
Non.
À cause d'un petit problème
À cause d'un problème de santé, c'est une maladie neurologique que j'ai déclarée il y a 7 ans et qui dès le début m'a cloué au lit, beaucoup de problèmes de coordination et des gros problèmes à la marche surtout. Donc, et problèmes d'équilibre, etc. Bref, j'avais plus le droit de conduire de moto, c'est terminé.
Ah oui, parce qu'au départ, donc, t'étais motard déjà depuis
quelques
années,
ouais,
tu roulais déjà en Triumph, ouais.
Alors je roulais en Triumph à l'époque avec une T120 Black.
Ah ouais.
Voilà, je suis passé par différentes motos avant, hein, mais je suis motard depuis que j'ai quitté la maison. Voilà, c'était pas trop moto à la maison, donc mais moi c'était une passion. Donc quand je suis parti, la première fois que j'ai commencé à gagner ma croûte, j'ai passé mon permis, j'ai acheté une moto et puis je suis tombé dedans. Voilà.
Donc, et donc quand je t'avais croisé, donc à l'époque là, tu pouvais plus faire de moto, c'est ça ?
Non. En tout cas, puis par moi-même. Des risques de crise, les problèmes d'équilibre, de coordination, comme je te disais, puis la fatigue physique qui était là, présente et très vite, fait que c'était trop dangereux de faire de la moto, donc totalement contre-indiqué et fini, quoi.
Et maintenant, c'est bon, tu peux en refaire.
Alors du coup, ça fait des années que je me bats un petit peu au quotidien. Donc essayer de retrouver, alors on a beaucoup lutté contre, sur l'équilibre, faire tout ce que je pouvais pour essayer de récupérer un périmètre de marche suffisant aussi.
Donc c'est quoi? Donc, c'est de la kiné,
c'est énormément de kiné, c'est de l'ergo, c'est de la psychomote, etc. Enfin, il y a plusieurs disciplines qu'il faut mettre dedans pour essayer de, de jouer sur tous les tableaux en fait. Hein.
Un traitement aussi, non? Non.
Alors il y a eu des traitements, il y a eu beaucoup de traitements, qu'on a essayé beaucoup de choses. Hein. Après j'ai une maladie rare et ils viennent seulement de la trouver, donc c'était un peu désert médical pendant des années. Donc pas de protocole non plus particulier sur la prise en charge, c'est juste à peu près 10 heures de kiné par semaine.
Ah ouais.
Qu'il faut enquiller en plus du boulot, enfin tu vois. Mais
c'est pour ça que t'es devenu costaud là.
Bah, je l'étais déjà un petit peu avant, souviens-toi, en plus je faisais du rugby et je pense que j'étais lourd derrière toi sur la moto.
Ouais, le T120, c'est vrai que les suspensions, elles sont pas non plus tout à formidables. Ouais.
C'est ça. Mais donc, bref, voilà, ce combat quotidien et le fait aussi de passer au fauteuil roulant à un moment donné dans la maladie. Donc je suis en fauteuil roulant à peu près 80% du temps.
D'accord.
Que j'ai customisé Triumph, évidemment. voilà, parce que la passion reste là et c'est la passion avant la raison, comme je dis tout le temps.
Tu l'as chromé, non?
Donc, j'ai mis les petits bouchons de valve de ma T120 en souvenir de ma T120, des kit stickers et j'ai fini par la custo complet, mon fauteuil roulant qui ressemble à ma Tiger maintenant.
Ah, ok.
Parce que du coup, à force de lutter donc avec le fauteuil et puis de récupérer un petit peu tous les jours, de grappiller de l'autonomie, aujourd'hui je sais que je peux faire 80 mètres avec deux cannes, donc c'est pour ça que je les ai là et qu'elles sont toujours avec moi sur la moto aussi. Et dans cette capacité à me déplacer, je me suis entraîné à savoir ce que je pouvais faire en réalité, tu vois, enfin au quotidien pour pas me mettre dedans et à tout simplement griller, parce qu'après il me faut des jours pour m'en remettre. Donc en trouvant ce rythme qui est le mien aujourd'hui, ça m'a permis à un moment donné de passer devant des médecins qui m'ont dit si vous voulez refaire de la moto, je vois plus de contre-indications. Et même pour ma santé mentale, c'était essentiel à un moment donné dans ma vie de reprendre quelque chose comme ça. Et ils l'ont senti aussi, donc c'est là qu'on dit la passion passe avant la raison. Hein. C'est là ils se sont dit c'est important, faites-le.
Donc tu es passé devant des experts en fait, c'est ça?
Ouais,
qui devaient te valider pour pouvoir te redonner ton permis.
Oui, d'accord. Tout à fait, exactement.
D'accord. Ouais, donc l'enjeu était important quoi.
Ouais, et puis donc à l'issue de ça, j'ai attendu quelques mois quand même parce que les bonnes nouvelles elles s'enchaînent d'habitude, mais c'est toujours en dents de scie, donc je me suis dit je vais patienter un peu. Et puis en fait, un matin, je me suis levé et je me suis dit c'est maintenant ou jamais quoi. J'avais des rêves plein la tête de road trip, d'aventure que je voulais faire avant. Puis le métro au boulot dodo fait qu'en fait, on repousse toujours ça à plus tard. On se dit, on aura le temps. Sauf que le temps, je ne l'avais plus. Donc là, je me suis dit, c'est maintenant, il faut le faire. Donc,
Et du coup, tu as acheté un Tiger, c'est ça?
C'est ça. Je suis d'abord revenu dans ma concesse préférée, hein, celle de Triumph Lille. Au revoir l'équipe, qui était super content aussi de me revoir venir encore plus pour acheter une moto. Hein. J'avais signé la vente avec Junior, du coup, à l'époque, de ma nouvelle moto. Et je me souviens que quand je suis venu la chercher, tout s'est fait avec les larmes aux yeux à chaque fois. Quoi. C'était un vrai moment. Partager aussi avec la concesse de se dire ça y est, je suis de retour quoi. Voilà, je suis là et j'ai pris un Tiger 900 Rally parce que c'est the moto utilitaire. Je voulais déjà une moto qui avait un goût d'aventure qui me permettrait d'aller où je veux, c'est-à-dire quand je vois un chemin, de pas me dire je suis limité comme je peux l'être dans ma vie tous les jours en fait. C'est, je suis allé quelque part, j'ai envie d'y aller. Donc j'ai pris une moto qui me permet de le faire et puis une sur laquelle, en l'essayant pendant une semaine, je me suis aussi rendu compte que c'est la moto qui me permettait de ne pas me fatiguer trop. Donc c'était la bonne moto pour moi. Say
Et donc, tu disais que tu avais fait donc, un voyage et tu étais allé jusque où ?
Jusqu'au Cap Nord.
Jusqu'au Cap Nord.
Tout à fait.
En
solitaire, avec la tente sur la moto. Et puis j'ai alterné, parce que bon, comme physiquement, il y a quand même eu des moments très compliqués, hein, je le cache pas. Mais j'ai testé avant, c'est-à-dire j'ai fait un premier road trip en France, j'ai fait le Tour de France un petit peu dans les mêmes conditions avec ma moto, où c'est là que j'ai découvert combien je pouvais rouler de temps par jour, combien de kilomètres en gros aussi, combien de nuits je peux faire dans une tente avant de devoir prendre une chambre d'hôtel, parce que physiquement t'es rincé et il faut t'en remettre. Le nombre de jours consécutifs où je pouvais rouler avant de faire une pause, parce que sinon pareil je peux pas tenir la distance. Donc j'ai appris tout ça, j'étais chercher les limites, quand je les ai trouvées j'ai planifié plus grand, et donc ouais, j'ai fait les 9000 bornes aller-retour jusqu'au Cap Nord.
Ça t'a pris combien de temps?
Je l'ai fait en un peu moins de 4 semaines.
Bah ça va, c'est, voilà, donc, c'est très raisonnable.
Il y a eu de l'allure. Il fallait. Bah après, j'ai pas des congés à rallonge non plus avec le boulot. J'ai composé avec ça aussi. Hein,
et t'as choisi en été, j'imagine. Ouais,
pour je suis parti sur la période juin-juillet. Ouais. À cheval entre les deux. C'était plus le mois de juin et tout début juillet pour le début des vacances scolaires, etc. Mais voilà, juin-juillet.
Et les conditions climatiques, ça va? Elles étaient cool ou...
Plus rude que ce que je pensais. Même sur juin-juillet, j'avais regardé la météo sur un site de météo, bref. Tu regardes en été, tu te dis au Cap Nord, s'il y a du soleil dans la journée, c'est 9 degrés. Tu dis 9 degrés, ça va, c'est bon, ça va tenir. En fait, pas du tout. c'est pas les mêmes 9 degrés que chez nous.
c'est
pas la même météo. Et pour le peu qu'il y avait, alors déjà, le vent qui s'engouffre, à mon avis, dans les fjords avec la neige, fait qu'il se refroidit énormément. Et puis, c'est souvent quand même assez pluvieux, etc. C'est plutôt humide comme temps. Donc, en fait, le froid, c'est...
Ah ouais, bah t'as pas choisi le plus facile. Hein.
C'est ça, j'étais au Cap Nord par 3 degrés, je me les plais comme je sais pas quoi, il y avait un brouillard à couper au couteau, un rayon de soleil pour faire la photo devant la boule, nickel, c'était vraiment l'aubaine.
T'avais prévu l'équipement sinon, quand même?
Alors j'avais prévu des vêtements surtout pour la pluie, parce que pas être mouillé, ça je l'avais vécu l'année d'avant, et rincé jusqu'aux os, j'ai dit ça, faut plus que ça m'arrive, faut rester au sec. Ouais. Donc j'avais surtout prévu les équipements de pluie, j'avais pris des sous-vêtements thermiques en me disant aussi pareil, si jamais il y a du froid, je peux faire. Et en fait, ça n'a pas suffi.
Et t'aurais manqué un pull ou deux, c'est ça ?
Ouais, carrément, puis j'avais pas la place. Alors après, la Norvège sont réputés aussi pour leur pull au vert, pour leur propre laine qu'ils font chez eux. J'ai joint l'utile à l'agréable, hein, je me suis acheté un pull de là-bas, ça m'a coûté un rein, mais c'est pas grave. Il est super beau, apparemment, je l'ai à vie, et super chaud. Et je l'ai acheté quasiment du coup dès le début, hein. Je suis arrivé, je crois que j'ai passé quelques nuits. Je me souviens quand je suis arrivé débarquer à Oslo, en fait, avec le ferry. Je visite un petit peu, je fais le tour, je m'en vais, je me dis je me poserai un peu plus tard le soir, je vais voir une église en bois debout, puis après je prends une route de col. Je ne savais même pas à quoi je m'attendais, parce que je n'ai pas non plus vraiment regardé avant, je suis vraiment parti en mode à l'aventure.
L'aventure,
ouais. Voilà, j'avais même pris qu'un billet à aller, de toute façon pour le ferry, parce que je ne savais même pas comment j'allais revenir et si j'allais revenir. Donc je me suis dit, hop, je sais où je veux aller, le plus important c'est le chemin, c'est de profiter de tout. Donc j'ai tout suivi et je sais que je me suis retrouvé, par exemple ce jour-là, de l'église en bois debout, je pouvais être en t-shirt dehors, à avoir chaud de toute façon avec la combi. Je suis reparti en t-shirt, hein, c'est pas grave, avec le blouson quand même. Hein. Et j'ai traversé des cols où les températures étaient négatives. Il y avait encore en fait, des glaciers sur les côtés, tout était gelé. Il y avait des congères qui étaient plus hautes que moi. Et on devait passer qu'à une file. Donc il fallait attendre son tour. Et j'ai attendu plus d'une demi-heure dans le froid. J'étais gelé. Et ce jour-là, j'ai dit, j'arrive pas à me réchauffer. De toute façon, il fait froid tout le temps. Il me faut un pull. Donc j'ai été le chercher le lendemain. Et je l'ai pu quitter jour et nuit.
Et t'en avais parlé à ta famille ou à tes amis avant de ton projet ?
Ouais, tout à fait.
Et ils t'ont pas dit, fais gaffe quand même dans ta situation en solitaire, si jamais il t'arrive quelque chose, comment tu fais ?
Bah, oui, forcément. Après, j'ai pas eu de vrai message d'encouragement en mode dis donc, ce que tu vas faire, c'est exceptionnel et tout, bravo, je vais te suivre avec enthousiasme, tout ça. Non, la réaction, c'était plutôt, mais t'es complètement con. Enfin, tu te rends même pas compte ce que tu vas faire, fais pas ça. Et c'était plutôt de l'incompréhension à ce niveau-là.
Ouais.
Et puis, de toute façon, après, c'est pas grave, hein, je suis parti quand même, je l'ai fait. Alors, j'ai énormément posté sur les réseaux sociaux.
Ouais,
tous
j'allais le dire, t'as fait une sorte de reportage pour que tes proches ils puissent te suivre.
C'est ça. En fait, la petite histoire derrière, c'est que ce voyage, je l'ai organisé tout seul. C'est-à-dire, j'ai été chercher. Il y a Triumph Lille qui m'a aidé, qui m'a offert la révision de la moto avant de partir. Voilà, donc ça, c'était super gentil à eux. Et c'est pour ça aussi que je suis là. Hein. C'est une façon aujourd'hui d'être bénévole et de leur rendre l'appareil. Mais ils ont été là pour m'aider un petit peu à cette préparation. C'est un peu les seuls qui l'ont fait. Le reste, j'ai organisé tout le trajet, etc. et financé tout ça moi-même. Ce que je voulais montrer, c'est que si on a un rêve, il faut donner les moyens d'y aller.
Ouais,
parce que c'est important pour des tas de choses. Et moi, j'ai la chance, quelque part, je suis chanceux de toute façon dans la vie, mais j'ai la chance de pouvoir me le payer et de pouvoir organiser ça par mes propres moyens.
Tu t'es donné les moyens quand même de le faire.
C'est ça. Faut économiser, etc. Ouais. Mais bon, bref, ça, je me suis donné en tout cas les moyens de le faire, comme tu dis. Mais je sais que d'autres n'ont pas cette chance. Et dans la maladie, il y a quelque chose qui me tenait à cœur, c'est de se dire que ce rêve-là, il m'a vraiment aidé à m'accrocher.
Ouais, bien sûr,
c'était un but. Et je voulais offrir ça à d'autres personnes. Donc j'ai un peu prospecté en fait sur des associations en France. Et j'ai shortlisté et j'ai fini par choisir une association qui m'a touché, qui est l'association Rêve, qui est une association qui exécute, enfin qui réalise des rêves pour des enfants qui sont très gravement malades.
D'accord.
Et l'importance de l'exécution de ces rêves dans leur maladie, dans leur quotidien, c'est hyper important aussi. Et j'ai été touché par ça, j'ai été sensible aussi par ça parce que ça me touchait personnellement.
Et donc, qu'est-ce que tu as fait avec eux alors ?
Je les ai contactés et je leur ai demandé si. Je leur ai expliqué mon projet et je leur ai demandé s'ils étaient OK pour que je crée une cagnotte solidaire du coup.
D'accord.
Pour eux, où l'intégralité serait reversée pour à l'association. Okay. Et que je communiquerai donc régulièrement sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que j'ai posté tous les jours des tas de choses, juste d'accord. pour montrer en fait ce que c'est ce voyage.
C'était il y a longtemps le voyage ?
C'était l'année dernière, je suis parti l'année dernière. D'accord.
Et on peut encore avoir les...
On a encore les stories, tout est sur mon compte Instagram.
D'accord.
Voilà, qui s'appelle Birlimark, The Life Beyond. Voilà. Mais si vous cherchez Birlimark, B-E-A-R-L-Y-M-A-R-C, vous allez me trouver et voir un gros cucus.
Voilà, tout
et après,
parcours,
dessus, il y a toutes les stories sur le parcours. J'avais fait un site internet. J'ai aussi posté beaucoup de photos. Et
comment il s'appelle, le site ? Pareil ?
Le site, en cherchant Birlimark sur internet, pareil, on va le trouver. C'est dans les premiers résultats. Donc, les photos Instagram sont aussi relayées sur ce site. L'objectif du site, en fait, c'était juste d'illustrer mon projet,
ouais.
de parler un peu de l'association, de mettre un lien vers cette cagnotte. En tout cas, avec tous ceux qui ont suivi et qui ont participé, on a réussi à collecter 6000 euros
ah ouais.
du coup, pour l'association. Donc, pour eux, c'est l'équivalent de 3 rêves pour des enfants. Donc,
c'est sympa.
J'ai vécu le mien. J'ai permis à 3 enfants, potentiellement, peut-être plus, mais de vivre aussi le leur.
Ouais.
Et ça me tenait à cœur parce que dans la maladie aussi, ça fait partie de la santé mentale qui va avec. Il y a un moment donné où on se sent vraiment aussi inutile. Et moi qui ai toujours été quelqu'un qui était là pour les autres et pour aider les autres, quand je ne pouvais plus le faire comme avant, ou quand les gens vont naturellement plus nous demander un coup de main parce qu'en fait, ils n'osent pas. On ne va pas demander ça à un handicapé, en gros. Ouais, voilà. Ouais. Ça me blessait énormément. Et j'ai pu en fait renouer avec ça aussi. J'ai pu continuer de rendre service et de faire des choses bien pour les autres parce que c'est mon moteur à moi et c'est ce que j'avais envie de faire avec ce voyage aussi.
Ok, pour terminer, t'as un projet de voyage prochainement ?
Bien sûr, je m'arrêterai pas là. Il y en a deux que j'ai en tête. Le premier, je pense que je ferai, c'est Écosse-Irlande.
Donc, ouais.
C'est faire le tour de l'Écosse. Alors, je suis fan de whisky, voilà déjà. Donc,
tu aimes bien la pluie, apparemment. T'as des vêtements de pluie qui vont bien.
Voilà, c'est j'ai investi, je vais les rentabiliser à coup. Mais voilà, Écosse-Irlande aussi parce que ça boucle un peu la boucle de l'histoire viking. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses qui se sont passées aussi au niveau de l'Angleterre et au niveau de l'Irlande.
Ouais,
il y a encore
ouais.
des vestiges aussi d'ailleurs là-bas. Hein. Et même fan de la série Viking, par exemple,
Kattegat
a été tourné en Irlande. Quand je suis passé à Kattegat, c'était juste un détroit avec plein de flottes. Je suis sorti, j'ai fait une story, j'ai dit je suis à Kattegat et tout, trop cool. Mais en fait, c'était juste de la flotte autour de moi. Donc je veux aller voir le village et le lac noir là où ils ont tourné, etc. Donc ouais. Ça bouclera un petit peu cette boucle là-dedans.
Et
après l'Islande, ça doit être un rêve aussi. Quoi. Quand je vois les paysages, c'est génial.
Vas-y en été, hein, parce qu'il fait froid aussi.
Ouais. Et maintenant, j'ai un super pull. Donc, normalement, c'est bon, je suis équipé.
Ok. Tu peux nous rappeler l'adresse du compte
Le compte Instagram, du coup, c'est Birlimark, B-E-A-R-L-Y-M-A-R-C,
ouais.
_ The Life Beyond.
Voilà. Et sur Internet, on peut retrouver
et
ton
site. Et en cherchant
site,
ça sur Internet, sur pareil, vous allez retrouver le site et puis les différents contacts. Bref, voilà.
They sang, haul away, haul away, haul away, Jack, and the devil and Jesus will find us. From a cold British town, 50 Irishmen sail to a place where no one could say no. Pay for their crimes, they were off on the rise on a prison ship and for Australia. They sent haul away, haul away, haul away, Jack, and the waves are rising behind us. Now sing haul away, haul away, haul away, Jack, and the devil and Jesus will find us. Haul away.
Amis motards, bonjour. Le calendrier des motoclubs, c'est parti. Vous êtes président ou motard d'un motoclub ou tout simplement d'une association et souhaitez publier les dates de vos manifestations dans le calendrier réalisé par Kikinkou Tetoupal. C'est très simple. Par mail à l'adresse générique calendar@k1c.fr ou sur le site de Kikinkou Tetoupal, k1c.free.fr. Et c'est gratuit. Amis motards, bonjour. Le calendrier des motoclubs, c'est parti. Vous êtes président ou motard d'un motoclub ou d'une association et souhaitez publier les dates de vos manifestations dans le calendrier réalisé par Kikinkou Tetoupal. C'est très simple. Par mail à l'adresse générique calendrier@k1c.fr ou sur le site de Kikinkou Tetoupal, k1c.free.fr. Et c'est gratuit.
Françoise Tessier, qui est romancière, hein, et elle a écrit deux ouvrages qui parlent de la moto. Hein, c'est assez rare quand même, des romans qui parlent de la moto. C'est de la fiction, mais tu vas nous en parler. Et je sais qu'il y a un troisième tome qui est en cours de préparation.
Absolument.
La suite, parce que ça a pas mal de succès, a priori. Voilà. Donc, oui. Est-ce que tu peux nous présenter tes ouvrages, ton œuvre?
Oui. Alors donc, ce sont deux ouvrages qui sont, donc ce sont des romans, mais basés sur des histoires vraies concernant surtout l'héroïne mécanique, qui est une Yamaha TZ, Et pourquoi alors une Yamaha TZ ? Bien parce que mon mari en possède une et c'était plus pratique pour avoir des informations surtout techniques et puis l'histoire aussi de la TZ parce que bon, c'est une histoire quand même bien sympathique puisque c'est grâce à cette Yamaha TZ que beaucoup de particuliers ont pu accéder dans les années 80 à la compétition. Donc c'est voilà, c'est déjà.
Ton mari fait de la compétition.
Alors il ne fait pas de la compétition, on va dire à temps complet. Il fait surtout beaucoup de roulage, de démonstration. Il a plusieurs TZ. On fait partie également du TZ Club France, ce qui me permet d'avoir des accès sur des circuits et des manifestations, notamment comme ici à Dijon. Voilà.
D'accord, donc c'est vraiment fait un. Voilà, c'est une approche de l'intérieur parce que tu connais bien le,
Le
milieu de la moto.
Voilà,
bien
alors la trame est une fiction, les personnages sont inventés, mais tout ce qui concerne la moto, ce sont des références exactes. J'ai tenu d'ailleurs dans mes personnages de créer des mécaniciens assez pointus et qui vont faire des échanges savoureux. Bon, ça c'est le côté distrayant du livre, mais également des petites histoires qui parfois font écho sur les paddocks quand d'un coup il y a une panne subite entre deux épreuves et qu'il faut démonter, remonter. Quoi, voilà.
Ça veut dire que tu t'es bien enseigné.
Absolument.
Sur les paramètres techniques de cette moto.
Oui.
En particulier.
Oui. Oui, tout à fait.
Et alors, on ne va pas se le cacher, la moto, c'est un univers qui est quand même alors très masculin, même si de plus en plus de femmes accèdent à cet univers.
Absolument.
Et heureusement. Et alors, quel est ton regard de femme, quel apport? On a déjà interviewé des romanciers,
oui.
Des auteurs qui ont écrit sur la moto. Tu n'es pas la première qu'on interview, donc la première autrice, comme on dit aujourd'hui. Quel est le regard de la femme sur la moto et qu'est-ce que ton regard de femme apporte dans l'écriture de tes ouvrages?
Déjà, moi, je suis cavalière à l'origine. Bon, ma passion, c'est les chevaux. Mais j'ai toujours été également passionnée par les sports mécaniques. Et donc, ce côté enfourcher un cheval ou un engin mécanique, même si moi je ne suis pas motarde, donc ça apporte déjà beaucoup de sensations, beaucoup d'imagination aussi. Et oui, effectivement, j'ai voulu apporter à travers ce livre, même si les références, tout ça, sont exactes au niveau mécanique et tout, j'ai quand même voulu apporter effectivement mon regard de femme sur la sensualité qui peut exister déjà entre le motard et sa moto, mais également entre les femmes qui portent des regards sur les motards ou sur leur moto, avec toute la gamme d'émotions que ça peut susciter, parfois jusqu'à la jalousie peut-être, parce que ces messieurs, ils aiment bien leur mécanique. Et voilà, mais bon, tout cela, bien sûr, à travers de personnages pour pouvoir l'exprimer de façon, on va dire, relativement soft. C'est-à-dire, je ne suis pas là pour faire le procès de qui que ce soit, ni de quoi que ce soit. C'est avant tout un livre distrayant, où chacun peut retrouver peut-être les émotions, autant bien les motards que les femmes des motards. Voilà.
D'accord. Alors, c'est plutôt un ouvrage, bon, si tu l'as dit, c'est une fiction. Ça parle de compétition, ça parle d'amour, ça parle des relations humaines.
Absolument, parce que ça, c'est mon terreau, on va dire, à la base, quand les autres ouvrages, c'est mon terreau de prédilection, de parler des relations entre les hommes avec un grand H, les relations humaines, oui. Donc ça me plaît beaucoup. D'ailleurs, c'est pour ça que dans mes livres, il y a beaucoup de dialogues, beaucoup d'échanges. C'est vraiment ce que j'aime raconter aussi, c'est comment vivent les gens, comment ils perçoivent les choses. Alors j'essaie de mettre tout ça en style assez aéré pour que pas que ce soit de longues descriptions. Donc pour ceux, j'ai mis les pensées, elles sont en italique, donc ça permet d'avoir un rapport très rapide pour le lecteur, de se situer à la fois parfois dans l'action et puis également dans la tête du personnage. Voilà.
D'accord. Alors cet ouvrage, il s'adresse surtout aux motards ou est-ce que c'est accessible pour un profane?
Alors moi, j'ai d'autres ouvrages, j'ai d'autres lecteurs et des lectrices, des amis qui l'ont lu de façon tout à fait, on va dire, profane, ne connaissaient absolument pas l'univers de la moto et qui ont beaucoup aimé d'abord de découvrir, qui ont peut-être un peu zappé sur les côtés un peu vraiment mécaniques, mais qui ont bien aimé aussi, donc, et qui ont permis d'avoir un regard différent. D'ailleurs, ma première publicité, quand j'ai écrit « Dernier tour de chauffe », c'était « Vous ne verrez plus les motards comme avant ». Alors, pourquoi ? Parce que, bon, mon personnage, je l'ai fait... il est beau, il est riche, bon, tant qu'à faire, voilà. Mais c'était surtout pour voir que la passion, ce que la passion peut faire aux gens... voilà, il est riche, mais après, il hésite pas à dormir n'importe où pour pouvoir aller faire un circuit, voilà. Donc, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que pour la passion, on est prêt à faire beaucoup d'efforts, de sacrifices. D'ailleurs, c'est un peu le tome après, c'est plutôt le sujet, le thème, pardon, du tome 2. C'est au nom de la piste, et ben, à ce nom, au nom de la piste, tout ce qu'on peut faire aussi comme effort, soi-même, mais également les autres qui entourent, voilà.
Can't forget. le thème quand tu commences un livre, tu as déjà la fin ou...
Alors déjà c'est le titre.
Est-ce que tu sais déjà comment ça va se terminer ou alors, tu vas comme ça petit à petit
Par exemple le titre, Dernier tour de chauffe, une fois que j'ai le titre, souvent j'ai la fin. Voilà, j'ai la chute. Voilà, enfin pas la chute de moto là, mais la chute finale, oui. Oui, oui. Alors, non, c'est les personnages, j'aime bien le dire, mais c'est vrai. Les personnages, je les crée. Et puis après, c'est eux qui m'emmènent, qui m'entraînent vers quelque chose qui se dévoile au fur et à mesure. Et c'est assez excitant, émotionnellement aussi.
Est-ce qu'éventuellement, ça peut arriver de changer de chute?
Oui, je me fixe pas.
Finalement, ça va pas se terminer comme ça.
Voilà.
J'ai une autre idée.
Oui, ça peut arriver.
Et ça va se terminer autrement.
Oui, ça peut arriver. Ça, justement, en fonction des personnages que je crée pour étoffer l'histoire, le fond d'histoire, je me dis parfois il y en a, ils prennent une importance auquel j'avais pas du tout prévu. Et donc, ils m'obligent effectivement à remanier un petit peu la fin d'une histoire. Enfin, la chute, enfin le côté bouclé, quoi, voilà.
Parce que pour écrire un livre, il faut mettre quand même, il faut avoir les idées, il faut les mettre. Au départ, on met sur
un plan, vous voulez dire.
Sur un plan.
Pas forcément.
Comment,
moi, je travaille pas vraiment avec
ça
un
marche,
plan. C'est l'idée qui m'emporte. Au début, c'était un petit peu difficile de trouver une idée. Alors, pour des personnages, leur vie, c'est pas compliqué pour moi, mais c'était surtout faire une histoire autour de la moto. Voilà. Alors, ça fait une petite intrigue qui fait que ça donne envie de savoir ce qui va se passer pour cette moto. Mais non, c'est beaucoup à l'improvisation. Voilà, c'est pas quelque chose qui me gêne, vous pouvez le voir. L'improvisation.
C'est l'histoire qui va te guider au fur et à mesure.
Oui, voilà. Oui. Et puis en fonction de ce que je vis, comme j'écris souvent, tout le temps, que je suis sur un circuit. Là, je suis en train d'écrire un autre livre, mais bon, voilà. Donc, celui-là particulier, je les ai écrits sur circuit. Et en fonction un petit peu de ce qui se passe, ça m'alimente mon imaginaire. Voilà.
Donc, tu vas pas peut-être parler de Kikinkou et tout pâle dans ton prochain bouquin, alors Tu vas peut-être écrire sur nous dans ton prochain bouquin.
Pourquoi pas, oui, d'interview de mon auteur, de mon personnage. Il en sera ravi d'ailleurs parce que c'est un personnage qui aime bien exister, voilà, mais pourquoi pas.
Tu pourrais faire une petite intrigue avec une bande de motards qui anime une émission de radio sur une radio libre du nord de la France. Il se passe des choses, un invité mystérieux par exemple, voilà. Qu'on connaît pas, totalement.
Absolument.
Improvisé.
Ah oui, là c'est une totale improvisation.
C'est peut-être les plus belles rencontres quand elles sont comme ça, improvisées.
On fait beaucoup de belles rencontres quand on fait de la moto et qu'on participe à ce type d'événement. Alors dis-nous, un ouvrage comme ça, tu mets combien de temps pour l'écrire? Parce que ça nous reste deux ouvrages conséquents. Hein.
Celui-là, j'ai mis, c'est vraiment symbolique comme chiffre, j'ai mis 9 mois.
9 mois.
J'avais sorti celui-ci avant. Donc je laissais un peu le temps et au salon de Lyon de la moto, donc 2022, j'ai rencontré des amis qui m'ont dit, il faudrait quand même que tu nous écrives une suite parce que c'est sympa. Une dizaine d'amis comme ça. Et donc j'étais sur le salon et j'ai commencé à écrire ce livre sur le salon et je l'ai terminé, donc c'était le 6 mars et je l'ai terminé le 4 novembre. Voilà, à l'imprimer. Donc là, vraiment, j'ai mis 9 mois. Bah, après, ça peut varier, mais il faut compter à peu près une année. Une année. Parce que, comme je suis auteur indépendant, il y a écrire le livre, et puis après, il y a toute la mise en page. Mm-hmm. Après, j'ai pris un maquettiste professionnel pour avoir des jolies couvertures, parce que j'y tenais, à ce que ça reflète bien l'esprit du contenu du livre. Donc, entre tout ça, après, il faut choisir l'imprimeur, l'impression, les dates, donc il faut compter à peu près une année pour un livre. Pour un travail qu'on a relu, qu'on a bien soigné, moi j'aime bien les choses bien, au mieux. on va dire, bien fait.
Et c'est édité par qui, hein?
Alors, c'est édité par moi-même.
Par toi-même,
voilà,
d'accord.
Voilà, okay, je suis auto-entre... Alors, je suis à la fois en auto-édition, ce qu'on appelle aujourd'hui, mm-hmm. mais je suis aussi auto-entrepreneur, puisque, bon, je suis ma propre maison d'édition, voilà, d'accord. pour et... pouvoir avoir une existence. Mm-hmm. Donc, vous pouvez me publier sur les ondes, il n'y a pas de problème. J'existe officiellement, si vous voyez ce que je veux dire. Parfait. Voilà, non, voilà. Et sinon, juste un petit mot, ça se passe... Donc, ça se passe maintenant.
D'accord.
Je veux dire, c'est de la
c'est
moto ancienne,
d'accord.
mais c'est contemporain.
D'accord.
Le premier tome, c'est avant le Covid, 2018-2019. Mm-hmm. Et puis celui-là, il est après le Covid, voilà, 2022. Voilà.
Ok, c'est vraiment... Le Covid a marqué tout le monde. Hein. Il y a un avant et un après.
Alors, oui, justement, quand on m'a parlé assez tôt d'avoir une suite, mm-hmm. je me disais, je ne vois pas mon personnage... avec un masque, voilà.
Oui.
Je le voyais pas. C'est un bel homme. C'est un homme qui invite les femmes au restaurant. Je voyais pas, donc les restaurants étaient fermés. Non, enfin, donc je ne voyais pas. Je voyais pas du tout. Et c'est vrai que, alors, je me sers de temps en temps de prétexte qui s'est passé telle ou telle chose dans le deuxième tome par rapport à ce qui s'est passé à la crise sanitaire. D'ailleurs, que je nomme crise sanitaire, Covid, mm-hmm. ça me plaît pas. Mais bon, voilà, je veux pas m'éterniser là-dessus. C'est pas le propos. Propos, c'est d'avoir un ouvrage optimiste avec une écriture bon, qui est assez fluide pour déjà comment dire, bien imprégner du personnage qui est un homme qui va vite, qui aime conduire vite. Il a voilà, des voitures sportives, il a des motos, il aime la vitesse, il vit à 100 à l'heure, c'est un patron, donc il voyage pour ses affaires. Donc voilà, je veux aussi que le lecteur il avance vite pour. Voilà, alors il y a des gens qui le lisent rapidement, 3-4 ouais. jours, d'autres, bon après ça dépend, un peu plus long. Mais parmi toutes ces histoires, j'en ai une belle, alors je ne sais pas si après vous le retiendrez, mais c'est qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils n'aimaient plus lire, qu'ils n'avaient plus envie de lire, qui se sont forcés au départ parce que justement ça parlait de moto, mm-hmm. et bien sûr parce qu'ils sont motards, et qui ont retrouvé le goût de lire. Voilà,
ça,
alors je ne sais pas après si ça sera pour d'autres ouvrages, mais en tous les cas, je me dis, c'est, pour moi, c'est une belle chose. Voilà. Sur un point de vue humain, puisque c'est très important pour moi, la relation humaine, c'est vraiment quelque chose. Je me dis, si je n'ai écrit ce livre que pour quelques personnes qui ont repris le goût de la lecture, eh ben, c'est formidable.
Ah oui, mais je pense qu'en effet, c'est un bel objectif. Hein.
Oui.
Remettre les gens à la lecture.
Voilà.
Aujourd'hui, on est,
on est captifs
de nos écrans. Là,
voilà. Le succès est peut-être une chose, bon, voilà. Mais bon, surtout pour un auteur. Alors moi, je me définis comme romancière parce que j'aime bien le terme romancière parce que le féminin existait déjà.
Ouais.
Voilà. Bon,
c'est plus joli qu'autrice.
Autrice, voilà, écrivaine. Je trouve que c'est lourd.
C'est pas très beau mot. Hein.
Non,
romancière. Vous trouvez pas que c'est plus joli romancière?
Moi aussi, romancière.
En plus,
ça fait rêver.
Hein, ça
exactement.
Fait rêver déjà. Voilà.
Mais alors, sinon, on peut se procurer où les livres?
Alors les livres, il faut me contacter parce que bon, ils sont
sur internet. On peut avoir
sur mon site,
des informations
sur mon
internet.
site,
oui.
Depuis mon site, voilà, www.instant-de-mots.com.
Eh bien, merci Françoise, et puis au plaisir de se rencontrer sur des salons, des courses de moto classiques.
Guarantee that I keep back the need and the grief for the hold that you have on. Don't let this moment disappear. Give in to touch, cordialate. Feel my hands asphyxiate. Close to close and then release. Our strength buckles from beneath. Tide is tight, nothing left. Searching in a single breath. Fire is lit, the flame is slow. What you feel afterglow. Through all of you it penetrates. Constant beat it generates.
Voilà, le magazine de la moto, c'est terminé. Nous vous souhaitons un bon dimanche et surtout une bonne semaine. Restez à l'écoute de Radio Campus Lille et rendez-vous même heure, même endroit, dimanche prochain sur le 106,6.